crise au Mali, guerre civile en Syrie, crise du Moyen-Orient, autant de lieux de tension sur la scène internationale. Qu'en penserait Hérodote ? Autrement dit, la géopolitique aujourd'hui est-elle une version contemporaine de la géographie, un outil au service de la stratégie ? Si la géographie en France, à travers ses chercheurs et ses universitaires, a une longue tradition d'auteurs reconnus, depuis Élisée Reclus, fils de pasteur, soit dit en passant, et sa nouvelle géographie universelle au XIXe siècle, jusqu'à Vidal de la Blache et ses célèbres cartes colorées accrochées dans les salles d'école, elle semble être en délicatesse avec ce qu'on appelle aujourd'hui géopolitique, pourtant très appréciée des médias. Peut-on comprendre aujourd'hui le monde sans regard géopolitique ? Celui-ci est-il la version contemporaine de la géographie ? Regard froid et désuet de cartes et des cartes et des estampes, pour reprendre le mot du poète. Autrement dit, à quoi sert aujourd'hui la géopolitique ? Quelle est-elle ? Et est-elle, suivant le fameux titre de l'ouvrage du géographe Yves Lacoste, paru en 1976 et heureusement réédité cette année aux éditions La Découverte, est-elle la nouvelle manière, sinon de faire la guerre, du moins de comprendre la guerre ? Pour envisager ces différentes questions, j'ai invité aujourd'hui Béatrice Gibelin, qui est directrice de la revue éponyme Hérodote, à nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la revue des revues. Merci beaucoup, Béatrice Gibelin, bonsoir.
Bonsoir.
Et je signale donc que vous êtes co-directrice avec Yves Lacoste.
Donc, maintenant directrice.
Maintenant directrice donc, de la revue Hérodote. Alors si, comme je le disais, selon la fameuse formule d'Yves Lacoste, géographe de renom, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, le titre de son ouvrage réédité, est-ce que la géopolitique, ça sert sinon à la faire, du moins à la comprendre ?
Oui, sans doute, mais la géopolitique ne sert pas qu'à ça. Il ne faudrait pas limiter les analyses de géopolitique aux seuls conflits internationaux. Nous avons fait le dernier numéro d'Hérodote, qui est un gros numéro puisqu'il s'agit d'un numéro double. Oui. Et nous lui avons donné un titre qui s'appelle « La géopolitique des géopolitiques ». Pourquoi ce titre ? Parce que ça se compose en fait de deux parties. Et la première partie, consacrée à la géopolitique, est une sorte de réflexion un peu théorique sur le champ possible de la géopolitique. Car nous comprenons la géopolitique non pas comme une science, surtout pas comme une science, car c'est le fait de l'avoir considérée comme une science et ses lois qui ont entraîné des dérives absolument dramatiques à l'époque du nazisme.
Oui, on y reviendra, oui.
Donc, absolument pas une science, mais un savoir, voire peut-être même une démarche, une méthode d'analyse pour rendre compte des rivalités de pouvoir sur du territoire.
Voilà, ça c'est la définition donc, que retient Yves Lacoste.
Mais, oui. Qui dépasse largement les seuls conflits internationaux, bien évidemment.
J'entends bien, mais je remarque que la revue donc dont je signale qu'elle a plus de 36 ans, si j'ai bien...
Oui, elle a été créée en 1976.
Voilà. Donc le numéro sur la géopolitique à proprement parler est celui des 3e et 4e trimestre 2012. Le prochain devant sortir...
La Turquie qui sortira en mars.
En mars, voilà. Dans cette revue donc vieille de plus de 30 ans, j'ai remarqué que au départ elle était donc fondée par Yves Lacoste, il n'était pas question de géopolitique et de géographie mais de stratégie, de géographie et d'idéologie.
Oui, c'est vrai, on a changé le sous-titre en 1982.
Oui, alors pourquoi justement comment vous expliquez le choix d'avoir mis en valeur la géopolitique puisque on a bien compris que vous voulez vous distinguer d'une approche strictement géographique. Dans quel sens ?
À la fois, on ne veut pas tellement se distinguer d'une approche exclusivement géographique. On voudrait que les géographes intègrent le politique dans leur approche, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on veut, c'est un champ de...
Quand vous dites géographe, c'est plutôt les universitaires. Hein.
C'est plutôt les universitaires. Parce qu'il y a aussi des géographes hors université, dans une vie professionnelle, collectivité territoriale, élus, Alors, il y a beaucoup de députés qui sont professeurs d'histoire, géographie, par exemple, mais c'est pas par hasard si on s'intéresse à la politique quand on est historien et géographe, c'est parfaitement logique, mais ils sont aussi dans l'aménagement du territoire, ils travaillent parfois dans des grandes entreprises pour contribuer à savoir où aller investir, où aller s'installer, c'est pas qu'une affaire d'économiste, c'est aussi une affaire de géographe, et ces géographes-là sont beaucoup plus à l'aise avec la prise en compte du politique pour leurs travaux. En revanche, le champ de l'université est, on va dire, plus traditionnel. Et c'est une, d'ailleurs, de nos grandes interrogations. Comment se fait-il que les géographes universitaires aient rompu avec le politique ? Et non seulement c'est une rupture, mais c'est véritablement une volonté farouche de tenir le politique à l'écart de la géographie.
Justement, si on devait faire une histoire de la géographie, en tout cas une histoire de l'école géographique française sans rentrer dans les détails, on remarque, comme vous l'avez dit, que la géographie s'est davantage intéressée à l'étude de l'espace, la géographie qu'on appelait autrefois dans l'école physique. Est-ce que c'est lié à la volonté de ne pas rentrer dans une approche idéologique ou politique puisque, si j'ai bien compris, vous y faisiez référence, de l'autre côté du Rhin, les Allemands ont assez tôt conçu la géographie au service d'une stratégie militaire, voire clairement politique, avec notamment la notion d'espace vital.
Alors, ça, c'est venu plus tard. Oui. Il faut pas. Le début de la géographie allemande, c'est pas la notion de tout à fait de l'espace vital, même si Ratzel va avoir un rôle important.
Au début du siècle.
Oui, fin 19e, oui. Mais on enseigne la géographie en Allemagne bien avant la France, puisque Élisée Reclus fera ses études, les seules études universitaires qu'il a faites, c'est en Allemagne, pour faire de la géographie entre 1850 et 1851. Voilà, avec Karl Ritter.
Mais d'emblée, l'Allemagne les géographes en Allemagne concevaient leur étude au service du pouvoir, à la différence de la France, non?
L'unité allemande n'était pas faite. Oui. Hein, elle sera faite en 1871 et dans la Galerie des Glaces à Versailles, vous le savez, en janvier d'ailleurs, 1871. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Bismarck, la Prusse, a un projet géopolitique qui est le projet de réunir l'ensemble des Allemands, tout au moins qui parlent l'allemand, et c'est toute la question de l'Autriche, Grande Allemagne ou Petite Allemagne, mais on ne va pas y revenir, pour constituer un État.
Autrement dit, il y avait un lien entre l'étude géographique et le pan-germanisme, et pour dire les choses, un mouvement nationaliste.
Oui, il y avait un mouvement nationaliste, pas de façon négative, c'est-à-dire l'aspiration à constituer une nation, un État-nation, et qui regroupe de la Prusse orientale jusqu'à la Prusse occidentale, la Rhénanie-Westphalie. C'est donc un projet politique extrêmement légitime que de réunir l'ensemble des gens de langue allemande dans un grand État. C'est pour ça que je fais attention au terme de nationaliste, parce que comme il est très connoté négatif, c'est une question de prudence.
Ma question, c'était d'essayer de comprendre pourquoi les Français se sont tenus à l'écart d'une approche qu'on va dire aujourd'hui géopolitique, au moins dans la recherche française, alors que les Allemands, finalement, assumaient complètement géographie et politique.
Mais c'est une question difficile. Et c'est une question à laquelle nous n'avons pas une réponse absolument sûre. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons eu très tôt en France un poids important dans ce 19e siècle de l'histoire. Les historiens ont joué un grand rôle dans l'installation de la réflexion politique en France. Bon. Plus grand sans doute que dans d'autres États. Deuxième élément, c'est la création de la science politique qui apparaît dans cette fin du 19e. Troisième élément, je pense, l'arrivée de la sociologie dans une société qui est en plein bouleversement et qui apparaît comme un savoir, une discipline qui va attirer beaucoup de gens. Mais il n'y a pas tant que ça d'étudiants à l'époque. Et les historiens voient d'un assez mauvais œil cette discipline montante et séduisante pour
la discipline
de la sociologie.
Oui, c'est ça. Oui.
Et d'une certaine façon, un contre-feu va être de proposer aux géographes de rentrer à la Sorbonne et de devenir une discipline universitaire.
Donc les géographes très vite.
Mais laissez-moi finir.
Ça s'intéresse plutôt au territoire. Enfin,
mais
pas
à une condition. Oui. Le politique, vous nous le laissez.
Aux historiens. Oui.
Aux historiens. Mmh. Et c'est la fameuse phrase de Lucien Febvre : le sol et pas l'État.
Donc ce qui veut dire que les Français, parce que vous le notez dans ce numéro très intéressant, sont passionnés par les cartes, et pourtant la notion, l'idée même de géopolitique va apparaître bien plus tard dans le,
oui,
à la fois dans les travaux de recherche et dans le.
Mais ça peut s'expliquer parce que compte tenu des dérives du nazisme sur la géopolitique hitlérienne, c'était devenu absolument un tabou, puisque on imaginait que systématiquement toute étude géopolitique pouvait conduire, ouais, à ce genre de dérive. Je veux dire, la médecine, sous Hitler, on l'a aussi utilisée,
ouais,
à des,
sûr,
choses qui n'étaient.
Et pourtant, elle n'a pas perdu
et
son statut scientifique.
Bien,
ouais,
évidemment,
c'est
pas.
Ça, l'énigme,
ouais. Mais on peut le dire aussi avec la biologie,
bien
on peut,
sûr,
le dire avec des tas d'autres choses. Mais ça a été le cas pour la géopolitique. Sans doute n'était-elle pas assez installée depuis longtemps. Et que dans le cadre français, on avait déjà fait la coupure entre le champ du politique et la géographie universitaire.
Oui.
Et j'ai beaucoup travaillé sur Élisée Reclus, que vous citiez tout à l'heure.
Élisée
Reclus, absolument passionnante.
Oui.
Enfin, puis quel géographe,
oui,
surtout.
Oui, oui. Non, je suis là qu'il était anarchiste parce que, oui, voilà quelqu'un justement qui est à la fois géographe,
justement,
et qui a un engagement politique.
C'est parce qu'il était libertaire, je le préfère ce terme de libertaire à celui d'anarchiste, qu'il était très sensible à tout ce qui était le facteur d'oppression. Et de façon encore plus pertinente à la hiérarchie de l'oppression. Et donc, quand il fait ses analyses, quand il travaille sur des États, il intègre ces hiérarchies de l'oppression. Il a eu des expériences.
C'est-à-dire, hiérarchie de l'oppression.
Eh bien, c'est qu'il n'y a pas seulement les puissants qui exercent une oppression sur les plus faibles, mais c'est que dans l'exercice du pouvoir, il se décline
Différents niveaux de.
À différents niveaux. Et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas être oppresseur.
Oui.
Parce qu'on trouvera toujours plus pauvre que soi à opprimer. Il a des pages absolument que je trouve.
Mais dans ses ouvrages de
géographie. Mais bien sûr, dans ses ouvrages de géographie, quand il parle de l'Irlande, il dit bien sûr, il y a les Britanniques, bien sûr, il y a la colonisation des Anglais. Et il a été lui-même un intendant d'un grand domaine en Irlande, qui appartenait à un Anglais.
Oui, enfin, on ne va pas faire l'émission sur Élisée Reclus.
Non, mais bien sûr, mais pour vous expliquer combien le politique était présent là, et combien il comprend qu'au fond, ce sont les Irlandais qui aident les Britanniques à exercer le contrôle.
Mais alors, pour revenir à notre revue Hérodote, je repose ma question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé du sous-titre stratégie, géographie, idéologie? Je rappelle que la revue a été donc fondée il y a plus de 30 ans par François Maspero, clairement, un éditeur clairement
de gauche.
D'extrême gauche, enfin de gauche.
Oui.
Bon, il y a d'ailleurs un article dans cette revue numéro 146-147 sur la géopolitique, pour laquelle je vous invite, un article d'Yves Lacoste qui revient sur toute l'histoire justement de la revue. Comment vous passez d'une revue qui sous-titre stratégie, géographie, idéologie à une revue qui prend comme sous-titre revue de géographie et de géopolitique?
Est-ce que nous nous rendons compte que ce premier sous-titre, il correspondait quoi ? À une préoccupation qu'on avait d'analyser la géographie des professeurs. Et c'était le versant idéologique. C'est-à-dire, au fond, la fonction de la géographie à l'école est une géographie pour faire aimer la patrie.
Oui.
Voilà. Et donc, on est préoccupé par la géographie des professeurs. On s'intéresse à
les
cela.
Les fameuses cartes de Vidal de la Blache.
Les fameuses cartes de Vidal de la Blache.
Voilà.
Le discours sur l'Hexagone, sur l'harmonie, sur, voilà, au fond, une France éternelle que les géographes décrivent. Bon.
Et au service de l'idéologie républicaine, enfin, de la Troisième République.
Oui, de la Troisième République. Et puis, ça s'est créé au moment où la France a perdu l'Alsace et la Moselle, sinon l'ensemble de la Lorraine, et que il faut créer ce sentiment patriotique. Voilà. Donc on était intéressé à réfléchir sur le versant idéologique de la géographie. Et puis, quand on quand Lacoste a l'idée de la revue, c'est en 73 les premiers balbutiements, on mettra 3 ans à ce qu'elle sorte véritablement, et il a cette très forte expérience qui va être celle des bombardements des digues du Vietnam, dont il a fait la démonstration de la stratégie américaine.
Autrement dit, comment expliquer vous parlez de la guerre entre le Cambodge et le...
Non. États-Unis-Vietnam, puisqu'on est en 73.
Oui,
on n'a pas encore la fin de la guerre. Et donc Lacoste, par un raisonnement géographique, essaye d'expliquer pourquoi on bombarde pas directement les digues sur le delta du fleuve Rouge, mais à quelques mètres, et certaines digues et pas d'autres.
Une petite note. Le raisonnement géographique, si je comprends bien, ça consiste à distinguer différents niveaux d'études. C'est ça,
niveau d'analyse.
Bon, c'est-à-dire, concrètement, vous prenez un territoire et vous l'étudiez sous différents angles.
Si vous prenez, pas seulement sous différents angles, c'est-à-dire que si vous étudiez une situation précise, très localisée, cette situation va être déterminée aussi par
un environnement plus large,
et on dit sans arrêt aujourd'hui du local au global.
Oui.
Voilà. Eh bien, le raisonnement géographique, c'est celui qui est le plus à même de penser,
d'articuler le up-down ou le down-up, si vous voulez. D'accord.
Voilà. Mais des choses qui se passent sur des événements très très précis, on parlait rapidement du Mali, ce qui se passe de façon très
dans
très précise dans la zone
ou
à la limite du sud et du nord du Mali, c'est-à-dire Tombouctou, Goa, va avoir des répercussions, ce que tout le monde comprend très bien, bien au-delà, c'est le Sahel, et puis ça peut être à une échelle planétaire.
Alors revenons à 73, donc une revue pour essayer d'infléchir le discours des géographes de la France éternelle.
D'une part, ça c'est un des volets, la géographie des professeurs, et puis il y avait un début de réflexion sur la discipline dans ces années 70. Qu'est-ce que la géographie ? Parce que à cheval entre les sciences de la nature et puis les sciences humaines, difficile de trouver un positionnement où la classer. Bien. Et jusqu'au moment où on a tourné autour de ça beaucoup, et puis la question du à quoi ça sert, au fond. C'est ça qui était plus intéressant.
D'où le fameux titre,
La géographie sert d'abord à faire la guerre. Qui arrive en 76, en même temps, effectivement, que la sortie d'Hérodote, après cette expérience très forte pour Yves Lacoste, qui est quand même sous les bombardements américains, est en train, avec une carte, d'essayer de repérer où sont les bombardements très précis pour faire sa démonstration. Bon. Donc c'est un moment très important. Du coup, on avait idéologie, géographie, stratégie, puisque là, on était dans l'optique militaire des choses. Ça, c'est 76. Et puis, on avance petit à petit.
Autrement dit, vous construisez un discours à la fois, vous n'aimez pas l'idée de science, mais je comprends une situation avec n'exclut pas d'avoir un engagement politique, quoi.
Non,
c'est ça.
Pas du tout.
D'où le terme d'idéologie.
Mais voilà. Et de comprendre à quoi sert cette idéologie, surtout, comme à quoi sert la stratégie. Donc c'est ça qui nous motive beaucoup. Et puis je crois que l'un des apports majeurs, il y en a eu beaucoup, mais un des apports majeurs des travaux d'Yves Lacoste et de sa pensée, c'est la notion de représentation des territoires. Et comment cette représentation des territoires, comment les différents protagonistes se représentent à
territoire. Représentation au niveau, au sens culturel, imaginaire.
Et stratégique. Bien sûr, l'attachement qu'on a à un territoire. Mais comment j'agis dessus? Pourquoi faire? Dans quel but? Et qu'on peut avoir des représentations très contradictoires de ce que doit devenir un territoire, de ce qu'on doit, comment on doit l'utiliser.
Ce qui peut justifier après des actions politiques, des rivalités sur un même territoire.
Bien sûr, et ça peut être au niveau de l'aménagement. Qu'est-ce que je fais de ce territoire? J'en fais un golf ou je continue à faire de l'agriculture dessus? Je maintiens une forêt ou je la défriche et j'installe des agriculteurs? Donc il peut y avoir des conflits d'intérêts et qui correspondent à des représentations du devenir du territoire, dans des situations éminemment démocratiques qui résultent du débat. C'est le débat public sur des aménagements aujourd'hui. Ça fait partie de la géopolitique, et il y a un excellent article de Philippe Subra sur la géopolitique locale dans ce numéro, qui est vraiment très intéressant. Et puis, il y a bien évidemment ce que Lacoste dit parfois, la grande géopolitique, c'est quand on est en train de discuter du Mali, du Sahel, des conséquences de cette déstabilisation dans cette zone.
Et alors, à quel moment vous changez le titre de géographie et de géopolitique ?
Alors, on le change en 82, à un moment très particulier, 82, c'est les massacres dans les camps palestiniens réalisés par les phalanges Sabra chrétiennes, et Shatila, oui. Sabra et Shatila, pilotés évidemment par les Israéliens. Et là, c'est une réunion qui a lieu dans mon bureau, là où se fait Hérodote. J'ai un souvenir très précis, comment on a changé ce sous-titre, et où les enjeux de pouvoir nous sont apparus comme extrêmement premiers, si vous voulez, dans nos préoccupations, bien plus que l'idéologie et la géographie des professeurs. Après, vous n'allez plus trouver grand-chose sur la géographie des professeurs dans Hérodote. On s'est dit, tant pis, on arrivera peut-être à faire changer les choses en montrant ce qu'un bon raisonnement géographique qui intègre le politique peut aider à comprendre cette situation.
Et en même temps, vous faisiez de la revue un outil, vous le soulignez dans l'article que vous avez produit pour ce numéro, donc le numéro
des 146, 147.
Des 3e et 4e trimestre 2012. Vous soulignez que la revue s'adresse évidemment tout d'abord à des étudiants et des chercheurs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre et de se représenter un territoire, mais vous avez quand même vous essayez de construire un savoir sur la géographie, justement, qui fait pièce pour, constant à la géographie, j'allais dire, de papa à l'ancienne.
Là, vous avez raison. On ne cherche pas seulement à s'adresser aux chercheurs et aux étudiants.
Mais à un public plus large.
Mais c'est vrai que nous sommes en train...
Il y a une dimension de recherche dans votre...
Oui, il y a absolument une dimension de recherche. L'Institut français de géopolitique compte 70 doctorants. On est sur un réseau de chercheurs internationaux, parce qu'on essaye de diffuser cette pensée qui trouve un écho soit au Mexique, au Brésil, en Italie, en Roumanie. Là où on a le plus de mal, c'est dans les milieux anglo-saxons, très très nettement.
Là aussi pour des questions de culture épistémologique.
Oui, épistémologique, de langue, parce qu'ils ne lisent que l'anglais, mais on vient d'avoir une grande opportunité, puisque nous allons avoir désormais 10 articles par an d'Hérodote qui vont être traduits en anglais, de façon à avoir l'accès aux grandes bibliothèques universitaires, essentiellement américaines et britanniques.
Dans chaque numéro, vous avez le résumé des articles
qui est en anglais, c'est insuffisant pour diffuser une pensée. Donc là, le Comité national du livre fait un gros effort pour diffuser la pensée française, et ils ont choisi un certain nombre de revues. Petit nombre, mais c'est normal, et nous avons l'honneur de faire partie.
Le CNL,
qui vont financer à hauteur de 60% la traduction d'articles. Donc c'est quelque chose d'important comme changement.
Pour diffuser la pensée
française.
Revenons donc à la question. Donc vous choisissez de parler de géopolitique et non plus d'idéologie.
Voilà. Et non plus seulement de stratégie. C'est-à-dire que la géopolitique va intégrer les représentations idéologiques du territoire, mais aussi les représentations que se font les acteurs qui agissent sur le territoire. Ils ont des stratégies de conquête, de contrôle du pouvoir, de maintien du pouvoir. Donc c'est ce terme-là qui va intégrer nos préoccupations, représentation territoriale, idéologique et stratégique, mais appuyé sur un raisonnement géographique. Et donc, nous gardons revue de géographie et de géopolitique.
Et alors, voilà pour le sous-titre, revue de géographie et de géopolitique. Pour le titre Hérodote, évidemment,
ça titille toujours un peu.
C'est-à-dire que, j'avais ouvert l'émission en essayant de faire parler ce grand ancien, Hérodote. Qu'en penserait Hérodote au sens où, d'abord, se retrouverait-il dans l'approche que vous adoptez des questions de territoire, de lutte pour de rapport de pouvoir sur un territoire? Est-ce qu'il se sentirait trahi, parce qu'on peut supposer qu'il se voulait historien, il a écrit des enquêtes. Pourquoi avoir choisi de vous placer sous l'égide d'Hérodote plutôt que d'un géographe, je sais pas, comme Strabon, un géographe antique, ou un, pourquoi pas Ibn Khaldoun, un géographe arabe?
Pardon, il n'était pas géographe. Ah, il n'était pas géographe. Oui, enfin, Ibn Battuta était un voyageur.
Mais oui, non, mais, enfin,
non,
cas,
non, mais
pourquoi
c'est pas lui
quand.
Pourquoi Hérodote? Ça, c'est. Il faut rendre à Lacoste ce qui est à Lacoste, et c'est lui qui a fait le choix d'Hérodote. Et depuis le début, depuis le premier numéro, nous avons un petit personnage qui est un buste d'Hérodote, qui est dessiné par Vias, qui nous a fait l'amitié de nous offrir ce dessin. C'est le buste d'Hérodote et qui tient un pistolet, oui, avec un silencieux au bout duquel la forme du silencieux est un petit globe. Mm-hmm. Voilà. Et donc c'était un clin d'œil à James Bond, qui dans les années milieu des années 70, mm-hmm, était très connu. Alors pourquoi James Bond?
Pourquoi Hérodote plutôt?
Non, les deux.
Ah bon,
c'est Hérodote et, ouais, et le silencieux, ouais, avec, ouais, le petit globe. Puisque vous avez dit Hérodote historien, non. Un historien ne fait pas d'enquête. Un historien travaille sur des archives, mais il ne fait pas de l'enquête contemporaine du temps présent. Aujourd'hui, on arrive, oui, à l'histoire du, oui, temps, oui, présent, oui, oui, mais normalement, ce n'est pas ça le travail de l'historien.
Non, mais dire, bon, non, bien sûr, non, mais justement, vous revenez sur l'image généralement répandue d'Hérodote comme, entre guillemets, le fondateur de l'histoire.
Qu'est-ce qu'il fait ? Il,
oui,
fait du renseignement pour Périclès,
oui,
à l'époque des guerres médiques.
Donc les guerres qui opposent les Perses et les Grecs.
Ouais. Exactement. Et donc, il est voyageur, il enquête pour raconter comment sont organisés les adversaires. Les futurs adversaires et déjà adversaires. Mmh. Et ceux qui sont considérés comme les barbares ne le sont peut-être pas tant que ça. Donc il fait un travail dont il va rendre compte à Périclès, qui va d'ailleurs lui coûter très cher, parce que dire la vérité coûte parfois très cher, et il devra s'exiler, et il ne mourra pas en Grèce, mais il sera en Sicile, si je ne me trompe pas. Donc, pour Yves Lacoste, la géographie, c'est renseigner pour agir. Soit on renseigne celui qui est en charge du pouvoir, soit soi-même, on peut être en situation de devoir être acteur d'une situation X ou Y, oui, donc, sur laquelle on se trouve.
Là, il faut vraiment lire entre les lignes, parce que quand on voit géographie et géopolitique, là, vous nous parlez de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'intelligence stratégique ou de l'intelligence économique.
Oui, à part que l'intelligence stratégique et l'intelligence économique, on le fait de façon masquée, très souvent, mm-hmm, tandis que là, il ne s'agit pas de ça. C'était pas fait, on n'agit pas de façon masquée aujourd'hui. Nous, quand on travaille, quand on fait des analyses, on ne fait pas de l'intelligence économique ou de l'intelligence stratégique. On met de l'intelligence intellego comprendre, mm-hmm, à comprendre des situations compliquées.
Oui, mais sans être au service du prince.
Sans être au service du prince.
Ce qui était Hérodote.
Ce qui était Hérodote, bien sûr. Alors, il y a des gens qui sont au service du prince, et c'est fort heureux, et c'est fort, mmh, utile, bien évidemment. Mais nous, on est des universitaires, on est des chercheurs. Donc, on n'a pas forcément accès à une information qui, elle, est effectivement de nature stratégique. L'État ne peut pas mettre, effectivement, sur la place publique, toutes les données. Qui relèvent, effectivement, de la sécurité et de la menace.
De la défense.
Et qui doit donc nécessairement.
Donc, vous avez à la fois un double hommage à Hérodote, et en même temps, vous infléchissez votre position par rapport à. Voilà, vous êtes à la fois des enquêteurs, mais
oui,
sans aboutissement au niveau de la stratégie et du
non,
pouvoir.
Sauf si on nous le demandait,
hommage
peut-être.
Hommage à Hérodote, mais en même temps trahison.
Voilà, pas vraiment trahison, parce qu'on n'est pas dans la même période que celle d'Hérodote,
oui, non,
on n'est pas au
5e
siècle avant Jésus-Christ, donc qui change quand même beaucoup les choses. Mais il est bien évident qu'on pourrait être, et ça peut arriver, à ce qu'on nous demande un avis, une analyse, et on la donnera. Quel que soit le pouvoir qui nous le demande, droite ou gauche, qu'importe, l'essentiel est qu'on fasse des analyses qui puissent être utiles et efficaces. Et pour qu'elles le soient, c'est un point sur lequel je voudrais venir, c'est que nous prenons en compte les représentations contradictoires des différents protagonistes qui interviennent sur un territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un angle de vue, mais c'est comprendre comment les uns et les autres voient le territoire et quel enjeu il représente. Et c'est ce qui nous permet peut-être de dépasser l'engagement politique pour arriver à la présentation des points de vue et des rapports de force, des rivalités, des uns et des autres. Voilà. Et je crois que c'est ça qui rend l'analyse géopolitique qui approche d'une plus grande objectivité en étant prudent.
Exactement. Alors ça, c'est encore un autre nouveau débat que nous allons pouvoir reprendre après ces quelques notes. À tout de suite. Géographie, géopolitique, on reconnaît dans les deux cas qu'il est question de la Terre, géo, et s'il est question de Terre, c'est qu'il doit être question d'espace, s'il est question d'espace, c'est qu'il doit être question de carte. Béatrice Giblin, je vous remercie, je rappelle que vous êtes donc directrice de la revue Hérodote, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour cette revue Hérodote. Question de Terre, question de territoire, question de carte. Comment expliquez-vous l'intérêt du grand public et en particulier des médias pour les cartes, l'un des plus beaux exemples étant sûrement la fameuse émission de Jean-Christophe Victor, Le Dessous des Cartes, intérêt pour les cartes, pour ce qu'il est convenu d'appeler l'infographie, et en même temps la difficulté pour à la fois les chercheurs et le monde universitaire d'articuler justement cette diffusion des cartes et un discours qui puisse être compréhensible à partir des cartes. Comment comprendre que le grand public, à partir d'une carte, a l'impression de comprendre, et pourtant, vous, dans vos revues, évidemment, que vous associez cartes, pour vous taquiner, je trouvais que dans ce numéro, il n'y en avait pas tellement, vous articulez cartes et analyses, explications sous forme de texte.
Déjà, la carte, c'est... un seul regard, hein, c'est un coup d'œil. Bon.
Donc la carte ne repassera jamais un texte.
Non, elle peut être associée à une légende très bien construite et la légende peut aider à raisonner sur la carte. C'est ce que fait désormais Le Monde, avec de très grandes cartes, qui occupent désormais des grandes pages, voire parfois des doubles pages, et avec des légendes qui sont des légendes raisonnées. C'est-à-dire, elles sont en différents thèmes, et il y a un titre à la légende, trois petits points, et on a les éléments qui correspondent à ce titre. Et la suite du titre passe sur un autre titre qui continue le premier titre qui est donné. Par exemple, si on parle du Mali, le Mali, un ensemble du Sahel, par exemple, trois petits points, qui est subdivisé entre...
Donc, ensemble du Sahel, vous avez la carte...
On voit à ce moment-là la carte.
Globalement, de la zone sahélienne.
Voilà, de la zone sahélienne. Sur cette carte, il y a déjà beaucoup d'éléments. Il va y avoir la limite entre la zone sahélienne et puis la zone plus humide, donc plus verte, où se trouve Bamako. Il va y avoir parfois les ethnies qui vont être différentes entre les populations qui sont blanches et les populations qui sont noires au sud du Mali. Il va y avoir l'environnement autour, avec le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, etc. Et avec des choses qui vont être indiquées. Et vous allez avoir, dans la légende, des éléments, on va vous conduire pour comprendre pourquoi on a choisi ces éléments pour expliquer la situation malienne. C'est la dernière carte qui a été faite dans le monde, enfin, il n'y a pas très très longtemps, et qui est d'ailleurs sur le site du monde.fr, et où on voit la carte se construire petit à petit.
Puisque dans le numéro dont on parle, vous avez un article très intéressant, donc de la responsable de l'infographie. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi pas parler de cartographie.
Mais parce que le monde appelle ça infographie, et ça devient de la cartographie, parce qu'ils font aussi
journal,
des graphiques,
monde,
parce qu'ils font aussi autre chose que des cartes. Donc ça s'appelle de l'infographie.
Et donc cette personne était géographe de formation ou...
Elle est non seulement géographe de formation, mais elle est docteur en géopolitique. Elle a fait sa thèse avec moi. C'est Delphine Papin.
Et donc c'est elle qui aujourd'hui s'occupe de construire donc progressivement, voilà, ce que vous venez d'expliquer à différents niveaux, la carte pour comprendre, donc mettre la carte en relief et en la dynamiser.
Et comprendre qu'une bonne carte dit beaucoup de choses, et parfois mieux qu'un texte, pour comprendre pourquoi c'est à cet endroit-là que se passe un conflit et pas un autre. On a besoin d'avoir des éléments qui sont sur une carte. Les distances, ça joue un rôle extrêmement important. Les montagnes, par exemple, on nous dit en ce moment, l'armée française va pas s'en sortir, ils ont fait le plus facile. Maintenant,
l'ACMI, c'est
dans les montagnes, ils vont pas y arriver, etc.
Bon, pour la situation au Mali, oui.
Pour la situation du Mali. C'est vrai, c'est dans les montagnes et c'est important. Pourtant, les gens découvrent qu'il y a effectivement des montagnes, que le Sahara, c'est pas un espace plan dans lequel on circule très facilement. Donc on a des éléments de géographie physique qu'il est important de faire apparaître.
Donc là, c'est la grande réconciliation avec vos amis géographes.
Mais
attaché aux cartes et aux territoires.
Aux cartes et toujours attaché aux territoires, et même attaché, grâce à Yves Lacoste, à la géographie physique, ce que beaucoup de géographes aujourd'hui ne veulent plus prendre en considération.
Alors, qu'est-ce qu'il leur reste alors?
Il leur reste une pseudo-sociologie, une pseudo-économie.
Autrement dit, vous voulez justement embrasser les différents types de géographie il y avait géographie humaine, géographie physique, géographie économique.
Mais il ne faut pas les dissocier, il faut les mettre dans un raisonnement. À quoi ça sert d'avoir que de la géographie physique d'un côté et que de la géographie humaine? Alors évidemment, quand on travaille en milieu urbain, la géographie physique, c'est pas majeur. Encore que les questions environnementales et de pollution et de climat, ça nous rattrape peut-être aussi un peu. Mais bien évidemment, quand on fait un aménagement du territoire, je veux bien sortir un peu des conflits, on intervient sur des territoires qui ont un certain nombre de caractéristiques physiques. On va prendre la question, je change complètement, mais volontairement, des nitrates et des algues vertes en Bretagne, comprendre les problèmes que ça pose, c'est de la géographie physique et de la géographie humaine, bien évidemment.
Et alors, pour revenir à notre question des cartes, donc vous efforcez donc de les animer, pas uniquement de donner une carte.
Pas seulement localisée.
Et comment expliquez-vous que, justement, dans le traitement de l'information, je reprends l'exemple du journal Le Monde dont vous parliez, c'est très difficile, au fond, d'expliquer et de rendre compte d'un conflit. Votre approche géopolitique est-elle compatible avec le surcroît et la diffusion quasiment exponentielle d'images? Est-ce que, par exemple, vous pourriez intervenir. Alors là, vous disiez, on est prêt à faire à reprendre le pistolet de James Bond. Vous pourriez intervenir à la télé avec,
oui.
Voilà, pour expliquer.
Bien sûr, c'est extrêmement difficile d'intervenir à la télévision, par exemple au journal télévisé, puisque vous avez 2 minutes, 3 minutes. Donc oui. C'est un art extrêmement délicat. Mais bien sûr que oui, ça nous arrive d'ailleurs. Vous allez dans des radios où on a parfois un peu plus de temps pour expliquer les choses.
Comme celle-ci, par exemple.
Bon, ça peut être le cas à RFI, ça peut être le cas à France Culture. Bon, mais parfois, ça peut être le cas sur FR3 avec différents types de problèmes. Bon, il fut une époque où j'allais assez dans l'air, où on a un peu de temps pour expliquer les choses.
Oui, mais là vous pourriez avoir un croquis, enfin une carte. Au fond, comment expliquez-vous que aujourd'hui, les images l'emportent sur des cartes alors que
quand on
voit des chars et des... Bon, voilà.
Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les cartes sont plus présentes.
Ouais.
Pas sur toutes les chaînes, mais il y a des chaînes sur lesquelles... Antenne 2, par exemple, met une carte, au moins une carte de localisation, beaucoup plus facilement. D'abord parce que l'outil cartographique avec l'informatique est beaucoup plus facile. Donc ça s'anime, on zoome, Google Earth, c'est tout le monde un peu... Enfin, tout le monde, non.
Mais alors justement,
beaucoup de gens ont accès à ça.
Et pour revenir alors à la dimension politique, diriez-vous que la carte peut être aussi faire l'objet d'une idéologie ou d'une vision?
Assurément. Vous avez un très grand cartographe qui s'appelle Philippe Rekasevics, qui est le cartographe du monde diplomatique, qui revendique aujourd'hui la carte radicale et de dire c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses, je n'essaye pas de rendre compte d'une situation avec une certaine objectivité, je donne ma façon de voir. Ma manière de voir d'une situation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évolué, peut-être à tort d'ailleurs, parce que moi je pense qu'il faut qu'on résiste à cette forme de cartographie radicale, de façon à pouvoir présenter ce qui serait bien, c'est qu'il y ait son point de vue et celui d'un autre. Pour montrer...
Notamment pour expliquer les conflits où là, il faut essayer d'articuler les deux approches.
Bien évidemment, les deux ou les trois, les multiples.
Autant de parties en présence.
En tout cas, des parties en présence, si on veut être vraiment efficace.
L'explication par les cartes, les croquis. Si je jette un œil sur les derniers numéros de votre revue Hérodote. Je suis frappé déjà par la diversité des thèmes abordés. Les auditeurs pourront faire l'enquête comme moi. La Russie 10 ans après, géopolitique des grandes villes, nation Brésil. Bon, là, on voit bien tout de suite quelle carte peut surgir. Si, en revanche, on se penche sur femmes géopolitiques ou bien renseignements et intelligence géographique, comment arrivez-vous à rapporter ces thèmes à justement une étude, une perspective strictement géographique? Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de, mais pourquoi pas, de faire de votre revue un lieu de recherche qui va faire appel à des urbanistes, puisque on sent que vous êtes intéressé aussi par l'aménagement du territoire, à des historiens, à des sociologues? Est-ce que vraiment vous insistez sur sur l'unité, la cohérence de votre regard strictement géographique, ou est-ce que votre revue pourrait accueillir des disciplines plus différentes?
Heureusement qu'elle accueille des disciplines autres que la seule géographie. Heureusement. Il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des urbanistes, il y a des sociologues, il y a des ethnologues, il y a... Heureusement.
Et ça depuis la création de la revue, ou il y a une ouverture plus récente?
Peut-être pas depuis les tout débuts de la revue, mais déjà depuis un moment. Il peut y avoir des politistes, il peut y avoir des civilisationnistes, des gens qui connaissent très très bien une civilisation, par exemple dans les spécialistes de la civilisation britannique ou indienne ou autre, on peut parfaitement leur demander des articles. Alors, on va leur demander en insistant sur le fait qu'ils doivent tenir compte des territoires dont ils parlent. C'est-à-dire qu'ils doivent essayer de spatialiser les problèmes dont ils parlent. Et très souvent, ils trouvent ça extrêmement intéressant et s'y prêtent très volontiers.
Il y a aussi des historiens?
Oui, il peut y avoir aussi, bien sûr, des historiens. C'est pas honnêtement les plus nombreux, c'est vrai. C'est pas les plus nombreux.
Et pourquoi
Parce que...
Il y a toujours cette vieille querelle en face
aux
vieux,
non ? C'est, franchement...
Non, non, mais on pourrait
nous,
le, on
non,
le
non,
dire,
c'est pas ça. Nous sommes... pour nous, il n'y a pas de géographie sans histoire. Et comme il ne doit pas y avoir d'histoire sans géographie...
Oui, même si on expliquait au début de l'émission que la géographie a eu du mal, pour dire les choses, à se faire de la place dans ce regard historique assez dominant depuis le 19e.
Bien sûr, on est bien, je suis bien d'accord avec vous. Ce qui est en train de changer, si vous voulez, c'est que la complexité du monde et les évolutions du monde assez rapides... font que les historiens ont un petit peu perdu la main. Et d'ailleurs, ils deviennent de plus en plus dans l'histoire du temps présent. Ils interviennent de plus en plus les situations très, très contemporaines. Mais pour expliquer une situation contemporaine, et c'est la démarche géopolitique, c'est-à-dire qu'on démarre de ce qui est à l'instant où on l'étudie, et on recherche dans l'histoire ce qui va pouvoir expliquer cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne parle pas on ne part pas du début avec un raisonnement qui soit le raisonnement historien, avec ces enchaînements qui apparaissent presque comme inéluctables et qui aboutissent à la situation actuelle. On part de la situation actuelle et on voit comment, en fonction de stratégie et de représentation, le cas de la Syrie étant tout à fait remarquable, un exemplaire dans cette affaire, et on voit comment, dans des périodes antérieures, soit dans des temps courts, soit dans des temps moyens, soit parfois dans des temps plus longs, on va trouver des éléments d'explication. Et comment le fait que
Par le territoire, toujours.
Oui, toujours par le territoire. Et par des
découpages, etc.
Et par les représentations qu'on se fait du territoire. Hein, suivant la Grande Syrie, c'est une représentation du territoire.
Béatrice Jumelin, je vous remercie. On pourrait évidemment, on entend bien, poursuivre encore longtemps cette approche passionnante de la géopolitique, dont on voit qu'elle a toujours une actualité. Elle ne va pas être dépassée par la géoéconomie.
Non, pas du tout.
J'ai vu qu'il y avait une revue de géoéconomie.
Oui, mais on va s'intéresser à l'économie et à la géopolitique.
Ah oui. Alors, je renvoie les auditeurs donc à ce numéro d'Hérodote et évidemment ce numéro donc 146-147 et puis au numéro précédent tout aussi différent, intéressant. Un numéro sur l'extrême droite en Europe dont vous m'avez parlé, qui pourra faire résonance avec celui sur le populisme de la revue Critique que j'avais invité. Je voudrais juste signaler ma séquence de brève, après que vous aurez fait une suggestion de lecture, Béatrice Jibelin.
Oui.
Je vous en prie.
Un ouvrage qui est sorti dans une jeune maison d'édition qui s'appelle Vendémiaire et qui s'appelle Populisme au pluriel, l'envers de la démocratie, qui est écrit par des jeunes maîtres de conférences.
Donc historiens,
spécialistes, non pas seulement, parce qu'il y a des spécialistes de la civilisation et d'économie britannique, ce dont je vous parlais, spécialistes d'histoire constitutionnelle.
Oui, je ne connaissais même pas les civilisationnistes.
Ah oui, ça s'appelle comme ça. C'est ceux qui ne se limitent pas à l'apprentissage de la langue. Et spécialistes d'histoire politique et de l'Union européenne, Sorbonne Nouvelle.
Donc,
édition Vendémiaire, Populisme au pluriel, l'envers de la démocratie.
Alors, de mon côté, je voudrais signaler l'excellente idée des éditions donc Gallimard dans la bibliothèque de philosophie, l'idée de traduire un ouvrage de Ferdinand Tönnies, sociologue allemand, critique de l'opinion publique. Tönnies qu'on connaît pour son ouvrage de la fin du 19e siècle, Communauté et société, où il faisait cette distinction très importante. Et la critique de l'opinion publique, bon, c'est une somme, qui s'efforce justement de montrer comment elle se constitue, d'où elle vient, comment l'opinion publique renvoie à la fois à la société, à des questions d'identité. Critique de l'opinion publique, bon, c'est un ouvrage exigeant à lire, mais tout à fait stimulant. Et puis, on parlait des années 70 avec Béatrice Jibelin. Je signale que le Seuil et Gallimard et l'École des hautes études en sciences sociales continuent de publier les cours de Michel Foucault, qu'avait connu Lacoste, c'est ça dans et vous aussi peut-être.
On a fait un entretien avec Foucault au début d'Hérodote.
Du gouvernement des vivants, donc c'est le dernier tome paru de ses cours au Collège de France, donc où il revient sur les régimes de vérité et la manière dont, notamment à travers la confession et à travers l'examen de conscience, l'individu essaie de comprendre, de vivre son rapport entre pouvoir et vérité. C'était la Revue des Revues, une émission proposée et présentée par Brice de Villers. À très bientôt sur cette même fréquence protestante. Au revoir.